Il y a plein de questions qui vont vous être posées, c'est sûr, parce qu'il y a plein d'exemples qui nous stimulent et on va vous poser des questions. Moi, j'en ai deux un peu générales. Vous avez beaucoup donné à voir quelle était votre méthode quand vous abordiez un bâtiment, avec quelles sources vous travailliez, quelles archives, les cadastres. Et en même temps, à chaque fois, on se dit, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas en dire un peu plus sur la méthode? Si vous avez dans la suite de la discussion l'occasion de dire un peu comment vous opérez dans le travail d'enquête sur un bâtiment ou sur un hameau, ça c'est intéressant. De même, si vous pouvez dire des choses sur votre programme de travail, comment vous organisez votre programme de travail au service de l'inventaire, vous faites commune après commune à la demande des communes et du service, et il y a peut-être un programme que vous avez en vue et on ne le sait pas, ça peut peut-être intéresser ici notre public de savoir ça. Voilà, puis j'ai une deuxième question. Sur les gens qui construisent aujourd'hui et qui le font à partir d'une maison existante et qui a une antériorité. Dans la procédure du permis de construire, je suis sûr que personne ne leur dit qu'il existe un service de l'inventaire qui a étudié beaucoup des maisons de ce village et qui a mis au point des publications qu'ils pourraient consulter. Mais est-ce qu'on pourrait suggérer même que les services d'instruction des permis de construire signale l'existence de votre service davantage. Et si c'était le cas, que les gens se tournent vers vous en disant voilà, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'éclairer un tout petit peu? Est-ce que vous pourriez réagir à cela ou est-ce que c'est trop demandé?
Alors, c'est déjà le cas en fait. C'est-à-dire que nous travaillons, enfin, ça va rejoindre en fait plusieurs questions, le programme, le déroulé. Nous travaillons étroitement avec l'UDAP, donc les services de l'architecte des bâtiments de France, donc sur plusieurs aspects. Donc, en ce qui me concerne, je suis le programme d'opération façade à Saint-Antonin, mais nous sommes aussi amenés à travailler parfois à leur demande sur des bâtiments particuliers, quels qu'ils soient, en ville, en campagne, parce qu'ils ont accès à nos données via la carte du patrimoine et que ils nous demandent, s'ils n'ont pas d'informations, si nous avons la possibilité d'aller sur place et de pouvoir produire quelque chose ou des compléments quand ce que nous avons fait n'est peut-être pas suffisant. Donc ça, nous le faisons régulièrement. Il y a d'autres services instructeurs qui nous consultent. Il y a toutes les communes où nous sommes déjà passés. En fait, un certain nombre d'habitants à connaissance du service, donc il nous arrive de revenir travailler dans certaines communes, des bâtiments qui, pour le coup, bon, on avait juste pu les observer depuis la rue parce que les propriétaires n'étaient pas disponibles. Il se trouve qu'il y a des travaux en cours, ça nous donne accès et du coup, on fait un travail commun. C'est assez lié aussi au programme de rénovation énergétique du bâti qui a été mis en place par le Pays Midi-Quercy également. Donc les propriétaires en fait en profitent pour avoir une connaissance de leur bâtiment pour après réfléchir à leur démarche en fait énergétique. Donc effectivement on est amené à faire ce genre de choses. Après, pour la démarche classique, effectivement, on travaille commune par commune, donc on prend contact avec la mairie, qui en général informe les habitants, et on prend le cadastre actuel et parcelle par parcelle, en fait, on sillonne la commune pour voir ce qui peut être étudié. Le cas échéant, si on suppose un édifice majeur, on prend directement rendez-vous avec les propriétaires. Enfin, après, la démarche peut évoluer en fonction de ce que l'on rencontre. Mais globalement, on sillonne la totalité de la commune. À l'issue de ça, donc, au début de la mission, on travaille en préliminaire, on ouvrait systématiquement des notices. Aujourd'hui, on fait une sorte de repérage. À partir de celui-ci, on sélectionne des édifices qui sont soit exceptionnels, soit caractéristiques. Et on rédige une sorte de diagnostic à ses conséquences sur l'histoire de la commune, la géographie, son architecture. Enfin, en général, c'est, on va dire, une petite centaine de pages. Et nous faisons une restitution publique destinée à l'ensemble des habitants pour qu'ils voient un peu le travail qui a été mené pendant les mois où nous étions sur place. Par rapport, par exemple, à Saint-Antonin, moi, quand j'ai fait l'inventaire entre 2006 et 2008, donc la mission devait travailler en préliminaire, c'est-à-dire passer partout, ouvrir des notices systématiquement, Donc on avait une vision, on va dire, assez globale de l'édifice. Donc s'il y avait des éléments marquants du 17e, effectivement, on les a signalés. Mais ce que j'ai essayé de démontrer ce soir, c'est qu'effectivement, on en a peut-être quantité d'autres que nous n'avons pas su voir et qui sont juste masqués par un enduit ou ce genre de choses. Et puis c'est une époque qui, même auparavant, donc il y avait eu un inventaire dans les années 80 qui avait travaillé sur la ville, un inventaire très poussé, sur quelques édifices en campagne. Et c'est une période, l'époque moderne, qui avait été finalement très peu évoquée. Donc nous, on a essayé de faire émerger certains bâtiments. Je pense à Malrigou, il y a des exemples à Vézy aussi, à Valade. Mais c'est très difficile de donner une quantité chiffrée.
Si on se promène ici dans la région, on voit beaucoup de maisons très anciennes et apparemment très intéressantes qui sont vides ou qui sont en train de se dérouler. Est-ce qu'il y a moyen de protéger ces maisons, ces immeubles?
C'est une très vaste problématique. En ce qui nous concerne, nous, le service inventaire, on a un service de connaissance, en fait. On n'a aucun droit de prescription ou autre sur ce type de bâti. Après, je ne vous cache pas que sur des cas réellement exceptionnels que l'on peut rencontrer, on peut se rapprocher donc, des services de l'architecte des bâtiments de France qui, le cas échéant, peut prendre le relais. Mais concrètement, sur la masse, on va dire, de bâtiments inhabités qu'il y a sur le territoire, je ne vais pas vous cacher que la tâche est difficile et que dans l'immédiat, il n'y a pas de solution si ce n'est voilà, que les propriétaires acceptent éventuellement de vendre leurs biens pour qu'ils soient restaurés. Mais ça, c'est du domaine purement privé. Et à part faire de la sensibilisation, comme on essaye de le faire aussi quand on rencontre les propriétaires, parce que c'est aussi ça notre travail, on n'a aucun poids autre. Hein.
Et dans certaines maisons du XVIIe et XVIIIe siècle, on voit apparaître des pierres qui débordent. Et nos anciens disaient, comme Julien, ça s'appelle des litres. C'est des pierres qui apparaissent et qui franchissent l'épaisseur du mur. Elles débordent à l'extérieur.
D'accord. Il y a plusieurs.
C'est une technique.
Il y a plusieurs.
On disait des litres.
Il y a plusieurs explications. Soit ce sont des pierres qu'on appelle aussi parfois les boutisses, en fait, plates, qui permettent un maintien de la maçonnerie. Soit elles avaient une fonction antérieure qui, à un moment donné, était un support pour du bois ou de la poutre.
Oui.
Soit ce sont.
Non, pas à l'intérieur. Hein.
Voilà. Soit ce sont des vestiges.
À l'extérieur.
Voilà, d'échafaudage. Ou en dernier cas. Ça peut être des pierres d'attente. C'est-à-dire qu'on les a placées là en se disant si on veut construire autre chose, on pourra le lier au bâtiment existant et avoir quelque chose de solide. Donc il y a plusieurs... il faut voir sur place, en fait, comment c'est monté, mais il y a plusieurs possibilités.
Autrefois, ils bâtissaient deux murs parallèles, en fait. Et ces fameux litres, ça rejoignait les deux murs parallèles pour les empêcher de s'écarter.
Oui, ça peut.
Et mieux le mur était bâti, plus il y avait de litres, justement. Quand il n'y en avait pas assez, les murs faisaient du ventre après.
Voilà, mais après, ça c'est, on va dire que c'est des spécificités presque micro-locales et ça rejoint l'approvisionnement en calcaire. C'est-à-dire qu'on a des communes où l'extraction du calcaire permettait des gros blocs. Et ils n'avaient pas besoin de construire de murs parallèles, de bouchers au milieu. Ils montaient leurs blocs et c'était parfait. Donc après, il y a eu une adaptation au terrain qui fait qu'on a des astuces de maçons, finalement.
Donc, dans l'explication que tu as donnée, tu as essayé de donner une typologie, ou en tout cas certaines caractéristiques suivant les périodes. Mais ce qu'on constate, c'est qu'un peu partout, toutes les maisons, elles ont évolué. Et qu'on a un mélange de ces caractéristiques, une évolution. C'est-à-dire qu'on on est à peu près sûr que tu as pris l'exemple de Montpalache, par exemple, du hameau, avec la carte Cassini où on voit uniquement l'implantation et ensuite le premier plan de 1811, et on retrouve des maisons élémentaires, à certaines parties du hameau, et des évolutions sur les autres avec les changements de date. Si on s'amuse à bien lire les lenteaux, on voit que, suivant les périodes, ce sont des maisons élémentaires qui ont été transformées, et y compris avec du réemploi. Donc, effectivement, la difficulté est de trouver des dates précises. Donc, est-ce que dans vos études, dans vos recherches, est-ce que vous avez des éléments notariaux ou autres qui peuvent vous aider à mieux dater ?
Non, parce qu'en fait, techniquement, on n'a pas le temps, nous, de s'attacher aux actes notariaux. C'est colossal, en fait, de s'immerger là-dedans. Il faudrait déjà être sur un site où on est sûr de l'intérêt, en fait avoir des preuves avérées archéologiques, parce qu'on part, enfin je parlais des sources, mais notre travail c'est quand même de partir de ce qui existe, hein. Et justement de pas se fier aux sources, mais d'arriver à lire une maçonnerie et arriver à émettre des hypothèses. Mais après, voilà, on est des services où on travaille seul sur le sujet, donc on ne peut pas faire ce type de recherche. Après, il y a des cas comme ceux que je vous ai présentés à RICOM, où on a fait le choix, voilà, de retravailler sur le cadastre ancien, de faire des recherches, parce que techniquement, voilà, on est arrivé, on a discerné, donc il y avait deux autres logis qui sont à l'abandon, etc. Je me suis posé la question de comment le traiter. C'est-à-dire que si je le traitais à l'heure d'aujourd'hui, bon, je distinguais clairement ces deux logis. En revanche, aujourd'hui, il n'y a qu'un propriétaire qui donc se retrouve avec quatre maisons, si on compte les maisons identifiables, plus je ne sais combien de dépendances. Mais finalement, en termes de notice d'inventaire, si je faisais une fiche par maison, je ne savais pas à quelle maison rattacher la dépendance, etc. Donc le choix s'est fait de le traiter en hameau, de partir sur l'état donc du début du 19e, et en même temps, dans cette étude, ça m'a permis de recaler tous les éléments antérieurs de chaque bâtiment, et donc d'essayer de phaser un petit peu l'évolution. Mais cette technique-là, elle est valable voilà, dans ce cas précis, mais dans un autre hameau, on va clairement retrouver des identités de ferme, donc on va l'évoquer différemment, et on pourrait effectivement remonter à ce moment-là sur des générations qui ont habité cet ensemble. Enfin, il n'y a pas de règle après, ça se fait en fonction de ce qui est gardé, quoi.
Et notamment les actes notariaux dont vous avez parlé, ça doit être quand même un travail considérable quand on veut ajouter cette source pour la connaissance de l'histoire d'un bâtiment, des personnes qui ont habité successivement. Je le dis parce que je me souviens dans la thèse de Cécile Rivals, qui elle a travaillé les maisons de la vieille ville de Saint-Antonin, et elle a laissé ça aussi à faire ultérieurement. Il y a encore un travail possible, même sur Saint-Antonin. Et alors ça, on le fait en fait assez rarement, c'est un travail trop lourd.
Mais en fait, ça rejoint ce que je disais à la fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut aller plus loin dans l'analyse de ces bâtiments, il faut grouper des compétences. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une pure historienne de formation. Voilà, il faudrait avoir dans le service un archiviste, au même titre que là je vous ai montré des essais de restitution, mais on va dire c'est du fait maison, mais je suis pas géomètre. Mais les photos, ouais, elles sont pas mal, mais bon, on n'est pas photographe non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on n'est plus dans des services composés avec réellement des profils très spécifiques. Et notamment pour les sources, effectivement, il faudrait un historien à demeure qui sache nous trouver rapidement toute cette documentation. L'avantage, c'est que une fois que ces notices sont ouvertes, elles sont, on va dire, modifiables à souhait. Et c'est le cas, voilà, quand on retourne sur une commune et qu'il faut faire une étude approfondie, on peut ajouter ce qu'on veut. Donc on a eu des étudiants qui sont venus travailler dans notre service, par exemple à Montricou. Ben voilà, sur des maisons de Montricou, on a eu des études très fouillées qui se sont ajoutées à cette base déjà constituée. Donc c'est ce qui est d'ores et déjà assez intéressant, c'est qu'on ne peut que l'améliorer.
L'archive qui a occupé pas mal de nos prédécesseurs du temps de Julien et d'avant a moins de place aujourd'hui. Vous faites plutôt de l'étude architecturale. Vous n'avez pas le temps d'utiliser les archives. Mais il y a eu dans l'histoire de la Société des Amis des gens qui ont passé énormément de temps dans les archives. Aujourd'hui, elles sont de nouveau accessibles, mais il n'y a pas un flux énorme de chercheurs ou d'érudits qui viennent les consulter. Enfin, je me tourne vers ceux qui ont une connaissance du travail fait sur les archives. Je pense à toi, Georges. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a moins d'exploitation des archives maintenant? Et peut-être...
Oui, dans les comptes consulaires, comme les propriétaires étaient tenus de déclarer leurs biens pour se faire imposer, on voit, on suit l'évolution des bâtiments.
Mais après, c'est évident, mais enfin, dans notre cas, il y a un facteur temps. C'est-à-dire qu'on est censé faire une couverture territoriale. Après, ce qui est intéressant, c'est que on a pu faire venir des étudiants. Je parlais de Montricou, mais il y a eu d'autres exemples où le fait qu'il y ait un service aussi, on avait travaillé avec Cécile Rivals pour lui donner de la documentation, on peut se permettre de proposer ou d'aiguiller des sujets, et ces personnes-là, ça va être de leur ressort d'aller fouiller dans les archives et de nous apporter aussi un complément d'information. Donc pour moi, voilà, c'est juste des choses qui se complètent. On ne peut pas tout faire et on essaye de trouver des gens compétents qui veulent bien partager, tout simplement.
J'ai travaillé avec Monsieur Julien, mais avant, en 69, quand nous sommes arrivés, il y avait des archives qui étaient entreposées chez les Rivières, à la Champignonnière, là-bas, sur la route des Fours à Chaux. Et alors, c'était après illisible. Elles étaient moisies, on ne pouvait pas lire.
Des actions d'entretien, de restauration de ce patrimoine rural. Donc il y a eu un premier chantier sur un muret dans le hameau de Tabarly, un deuxième dans le hameau de Sainte-Sabine. Chaque fois, ces mini-chantiers sont précédés par une visite du lieu avec... en partant des recherches qui ont été faites par le service inventaire, des éléments qui permettent, lorsqu'on veut faire quelque chose, de s'appuyer sur ce qui existe, c'est-à-dire de ne pas faire quelque chose qui soit anachronique. Et donc les deux prochains chantiers qui sont prévus, il y en a un sur le plateau du Bosc, autour du lavoir du plateau du Bosc, au mois de septembre, et un deuxième sur Toumet, on en a parlé tout à l'heure, qui serait autour de l'aire de battage de Toumet. Toumet, c'est sur le plateau du Roc d'Anglard, voilà, à côté de Palotte. Et donc il y avait une aire de battage, le muret qui est autour est effondré, on remonterait ce muret, on remettrait une meule de battage sur cette aire pour lui redonner effectivement ce caractère. Oui.
Voilà, c'est un travail qui marche assez bien. À chaque fois qu'on a fait un atelier comme ça, il y a eu une trentaine de participants et qui ont tous été contents. Donc pour savoir quand ça a lieu, le plus simple pour ceux que ça intéresse, c'est de nous fournir votre adresse mail, parce que l'information sur ces séances, elle se fait par un message électronique qu'on envoie aux adhérents. Donc ceux des adhérents qui sont ici et qui n'ont pas encore donné leur adresse mail, il faut qu'ils nous le donnent s'ils sont intéressés à avoir ce genre d'informations. Voilà, merci surtout Alexia, bravo à vous.